Il est déjà plus de 2 heures du matin, mais à Athènes, personne ne dort. Les cris de la foule, Constitution, nous voulons une constitution, continuent de faire vibrer l'atmosphère. Bientôt, des coups de feu sont entendus près de l'agora romaine. Un groupe de partisans du général Macrigianis réussit à briser le cordon des gendarmes qui avaient bloqué sa maison. Un gendarme tombe mort. Macrigianis est libéré et se dirige vers le palais avec ses partisans. Alors qu'ils traversent les ruelles étroites de la ville, de plus en plus de personnes les rejoignent. L'artillerie arrive devant le palais sur ordre du roi Otho, afin de disperser la foule rassemblée. Mais son chef ordonne soudain à ses hommes de tourner leurs canons contre le palais et de se préparer à y mettre le feu. La foule le glorifie. Tambours et trompettes résonnent dans le ciel nocturne. À l'intérieur du palais, le roi Othon, est toujours assis à son bureau. Amalia s'approche de la fenêtre et voit les canons pointer vers le palais. « Mon roi, la situation est maintenant critique, lui dit-elle, vous ne pouvez pas attendre plus longtemps. » Les yeux baissés, le roi lui avoue qu'il était au courant des plans des révolutionnaires depuis des jours. « Dès que j'ai entendu le cliquetis des chevaux et les cris, j'ai cru que les rebelles avaient été arrêtés. J'ai été trahi. L'armée s'est retournée contre moi. Seuls les gardes du palais ne m'ont pas trahi. Je suis impuissant et indésirable maintenant. » Amalia l'a pris par la main. Avec des mots décisifs, elle l'a encouragé et lui a rappelé que sa position n'autorise pas une attitude défaitiste. « Au moins, tu dois les écouter. Je suis sûr que si tu leur parles, une solution sera trouvée. » Les cris et les hurlements ont maintenant cessé. Le colonel Calergi a déjà ordonné à la fanfare militaire de jouer afin de détendre la foule rassemblée. Soudain, il fait signe à la fanfare de s'arrêter. Une fenêtre du rez-de-chaussée s'ouvre. Le roi Otho apparaît. À ses côtés se tient le colonel Bavaroises, une personne particulièrement détestée par le peuple, car elle représente la règle bavaroise détestée. La foule éclate en cris et en insultes contre le fonctionnaire bavarois. Calergi leur demande de se taire. Le roi Othon demande à Calergi quelles sont les revendications des révolutionnaires. Calergi, toujours à cheval, répond « Votre Majesté, le peuple veut une constitution. » Le roi Othon demande avec colère à la foule de se disperser et assure à Calergi qu'il va y réfléchir et répondre le lendemain. Calergi rejette cette proposition et lui explique que le peuple exige une réponse immédiate, sinon il ne se dispersera pas. Peu avant 3 heures du matin, devant la foule, Otho accepte de donner la salle de réunion du palais aux représentants des rebelles afin d'examiner leurs revendications. Parmi eux, il y a des militaires, des politiciens et d'anciens combattants de la révolution de 1821. Pendant la réunion, l'armée garde le bâtiment. Le conseil remet ses demandes au roi, ils demandent une constitution. Ils exigent également le renvoi de tous les étrangers de l'administration et, dans un délai d'un mois, la convocation d'une assemblée nationale, qui travaillera à la rédaction de la constitution. Le roi Othon, pour gagner du temps, demande à consulter les ambassadeurs étrangers. Lorsque les ambassadeurs des grandes puissances s'approchent de la porte du palais, le colonel Calergi, d'un geste décisif, les bloque. Il leur assure que le roi est en sécurité mais qu'ils doivent le laisser rencontrer le comité révolutionnaire et décider ensemble. Le roi Othon, le visage blême, retourne dans son bureau. D'une voix qui révèle sa nervosité, il lit les demandes des révolutionnaires à la reine Amalia. Quand il a terminé, il la regarde en larmes. « Voilà, ma chère, comme tu peux le voir, je n'ai pas d'autre choix que de démissionner du trône. » Amalia s'oppose fermement à lui. Elle souligne qu'à un moment aussi critique, cette décision serait désastreuse pour le peuple. Elle conduirait le pays à l'anarchie et à la destruction. Mon peuple, mon roi, n'a pas la maturité nécessaire pour prendre en charge son avenir. Votre responsabilité envers lui est grande en ce moment. Si vous cédez à leurs demandes, vous ne faites pas preuve de faiblesse. Au contraire, vous gagnez du temps et vous assurez la légitimité et la paix dans le pays. Les paroles de la reine Amalia ont été interrompues par des coups de feu entendus dans les quartiers de la ville. Le roi Othon a compris qu'il devait prendre ses propres décisions car la situation était critique et la paix ne tenait qu'à un fil. Il avait décidé d'accepter les demandes des révolutionnaires, lorsque leur délégation l'a informé qu'il demandait également ce qui suit, la nomination d'un nouveau cabinet, l'attribution de l'excellence au colonel Kalergi, au colonel Makrigianis et aux autres leaders du soulèvement et l'établissement du 3 septembre comme jour de célébration nationale. Ces ajouts ont encore plus irrité le roi Othon, qui a donc tenté de faire aboutir leur appel grâce à l'intervention des ambassadeurs étrangers que les rebelles avaient récemment autorisés à entrer dans le palais. C'était déjà l'aube, mais la foule rassemblée ne s'était pas dispersée. Tout le monde attendait les annonces officielles, mais elles étaient en retard. La foule commence à frapper rageusement à la porte du palais. Avec des cris et des hurlements, ils menacent de la casser si le roi n'apparaît pas. Bientôt, le roi Othon apparaît sur le balcon, entouré d'ambassadeurs étrangers et de nouveaux ministres. Un silence absolu règne sur la place pendant quelques secondes. Soudain, quelqu'un crie « Vive le roi, vive la nation !» Les gens ont commencé à répéter ce slogan en rythme. Pendant quelques minutes, le roi Othon se tient debout sur le balcon, tandis que la foule le glorifie. Il salue ensuite avec un sourire gêné et se retire à l'intérieur du palais. La foule se disperse à 3 heures de l'après-midi. C'était le 3 septembre 1843. Le soulèvement presque sans effusion de sang et ses conséquences se répandent rapidement dans tout le pays et provoquent une grande excitation. Les Bavarois ont été démis de leurs fonctions, la plupart d'entre eux ont quitté le pays. Le lendemain, le couple royal est sorti dans la ville à cheval et a été adoré. Un mois plus tard, un dîner fut organisé en l'honneur des dirigeants de la Révolution, dont le colonel Kalergi, qui avait été nommé gouverneur d'Athènes et adjudant du roi. La vie dans la capitale avait retrouvé son rythme. Le 3 septembre 1843, la Grèce passe d'une monarchie, à Dieu ne plaise, à une monarchie constitutionnelle. Le pays sera dorénavant gouverné selon des lois auxquelles même le roi devra obéir. La constitution, finalement promulguée en mars 1844, était basée sur la constitution française de 1830 et la constitution belge de 1831. Elle comprenait même la loi électorale, qui reconnaissait, pour la première fois en Europe, le suffrage universel pour tous les citoyens masculins. Le palais du roi Otho et de la reine Amalia abrite aujourd'hui le Parlement de la Grèce, dont l'État est une république parlementaire. La zone située devant le palais du roi Otho, où se sont déroulés les événements de cette nuit-là, est aujourd'hui la « place Syntagma », toujours pleine de Grecs et de visiteurs étrangers.